Dieu. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont en bas. Voilà, ils sont en communion avec nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il y a la caméra, donc il s'est retransmis dans la salle du bas. Voilà, nous les saluons en Jésus-Christ. Alors, nous sommes heureux d'accueillir Michaël et Ruth, Guilherme, voilà, qui viennent de Toulouse. Ils sont déjà passés là, il y a quelque temps. Voilà, que le Seigneur bénisse et on bénit la collaboration que nous avons. Voilà, on est heureux, une bonne communion pastorale, fraternelle. Voilà, je lui laisse toute la place.
Voilà, bonjour à tous. Merci. Voilà, vous m'entendez bien ? C'est bon. Merci Monsieur Basile pour l'invitation. Et vraiment, on est heureux, Ruth et moi-même, d'être avec vous. Et c'est vrai qu'on passe des bons moments chaque fois qu'on vient ici, dans la présence du Seigneur. C'est vraiment une grâce, c'est doux, c'est agréable de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Et si vous voulez bien, je vais encore remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Et puis ensuite, on méditera la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir méditer ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est la lumière que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu nous as aussi donné le Saint-Esprit. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est que cette parole soit comme cette épée à double tranchant qui rentre dans les cœurs et qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Le psalmiste demandait que sa bouche, sa langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et Seigneur, ce que je te demande, c'est que les paroles qui soient dites, tu puisses, Seigneur, par ton esprit, les appliquer au cœur, dans les situations, Seigneur, dans les choses cachées que l'homme ne peut pas voir, mais que toi tu vois. Seigneur, que tu puisses faire que ces paroles soient empreintes de ton esprit, Seigneur, et que ta parole soit déposée sur les cœurs, Seigneur. C'est ce que nous te demandons, parce que ce que nous désirons, c'est entendre ta voix. Et Seigneur, lorsque toi tu parles, alors ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit son œuvre. Alors Seigneur, c'est ce que nous désirons ce matin, c'est entendre ta voix. Et ensemble, c'est ce que nous te demandons, mais aussi nous te disons merci d'avance pour ta parole, que ton nom soit glorifié. Amen. On va faire une première lecture, donc, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Évangile de Matthieu au chapitre 16, et on va lire à partir du verset 21. Il y a quelque chose que Jésus va faire connaître à ses disciples. Vous savez que dans certains moments, Jésus s'adressait à tous. Et à certains moments, il s'adressait à ses disciples. Et voilà ce qu'il va leur dire. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et une deuxième lecture dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, où l'apôtre Paul va parler de l'œuvre de Jésus à la croix. Alors les commentateurs pensent que ce texte était un petit cantique que les chrétiens de l'époque chantaient. C'est un peu le de son trône de clarté de l'époque, qui raconte l'œuvre de Jésus à la croix. Et voilà ce qu'il va dire. Donc Philippiens, chapitre 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Dans le premier texte, donc, on voit Jésus qui s'adresse à ses disciples. À ses disciples. Et vous savez, et je crois que ça vous le savez, que Jésus n'est pas venu pour faire des hommes, des chrétiens, des religieux. Jésus est venu et demande à faire des disciples. Avant qu'il remonte au ciel, il va dire à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et je crois qu'il y a plusieurs d'entre nous qui désirent être non pas simplement un chrétien, mais un disciple. D'ailleurs, vous savez que le mot chrétien est arrivé bien plus tard et c'était une insulte. Quand on disait que les gens étaient des chrétiens, on les insultait. Bon. Mais le mot que Jésus utilise souvent, c'est ses disciples. C'est quoi un disciple ? Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement de quelqu'un, d'un maître. C'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. C'est comme un écolier, si vous voulez. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite, qui suit l'exemple de son maître. Vous savez, des fois, on voit qu'il y a des inventeurs ou des peintres, ils avaient leurs disciples. Vous savez, Léonard de Vinci, il avait ses disciples. C'est des gens qui imitaient, qui faisaient comme lui. Et Jésus dit bien que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le but de Dieu, ce n'est pas de faire des chrétiens, de faire des religieux, de faire des gens qui viennent à l'église le dimanche matin. Le but de Dieu, c'est de faire de nous des disciples. Jésus, il est Seigneur. Et lorsque on regarde à Jésus, vous savez, on peut voir deux choses. Il y a deux aspects lorsqu'on regarde à Jésus. On peut voir Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Il y a des choses que Jésus a faites que nous ne pourrons jamais faire. Il y a des choses que Jésus a faites qui sont inimitables. Venir du ciel sur la terre, mourir à la croix pour pardonner les péchés, vaincre le péché, vaincre Satan, dépouiller les dominations, ça, nous, on ne peut pas le faire. Moi, je ne peux pas aller à la croix, mourir pour vous, pour vos péchés. Si moi j'allais à la croix, ce serait purement mérité. J'apporterais rien. Mais Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait, dans son œuvre, il y a des choses qui sont inimitables et que Dieu ne nous demande pas d'imiter. Le salut, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu à la croix. Et il y a des choses, il ne nous est pas demandé de les imiter, il nous est demandé de croire. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. Et nous, ce qu'il nous est demandé, c'est de croire en sa victoire. Jésus-Christ, c'est le sauveur. Un sauveur, c'est celui qui va sauver quelqu'un. Les hommes, ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Alors Jésus-Christ est venu. C'est ce qu'on a lu dans Philippiens 2. Il est descendu, il s'est dépouillé de sa gloire, et il s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il y a des choses, vous savez, que vous ne pourrez pas faire. Ben, tant mieux, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. C'est gratuit, c'est lui qui a payé le prix. Vous ne pouvez pas payer le prix pour vos péchés, lui il l'a fait. Le salut, ce n'est pas Dieu qui demande à l'homme de payer un prix, le salut c'est Dieu qui vient lui-même payer le prix pour l'homme. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'il demande à l'homme, c'est sa confiance, c'est sa foi. Et lorsque je crois au sacrifice de Jésus à la croix, alors je peux être sauvé de mes péchés, délivré de la mort, sauvé de l'enfer. Il y a une partie qu'on ne peut pas imiter de ce que Jésus a fait. Pourquoi ? Parce qu'il était Dieu. Il était Dieu. Mais il y a une partie que l'on peut imiter. Jésus, il est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Par exemple, lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples, il va leur dire « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc autant il y a des choses qu'on ne peut pas faire, autant il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut imiter. Et c'est ça le sens d'être un disciple. L'apôtre Paul, il disait, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc on voit que l'apôtre Paul imitait le Christ, et il demandait aux premiers chrétiens, disciples, de l'imiter lui-même parce que lui-même imitait le Christ. Vous voyez ? En fait, on voit que les disciples, ça se fait par imitation. C'est parce que nous-mêmes, on l'est, que ceux qui nous regardent savent ce que c'est et peuvent l'imiter. Vous voyez ? On imite le Christ, et c'est ça, être un disciple. Et on l'a lu dans Matthieu, si quelqu'un veut être un disciple, c'est Jésus qui le dit, il va donner une condition. Il dit, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut être mon disciple et me suivre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être le disciple du Seigneur ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez ? Il y a une condition. Le disciple, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, c'est pas celui qui vient le dimanche matin et qui prie. Oui, ça en fait partie, mais c'est pas ça. Le disciple, c'est celui qui cherche à suivre son Seigneur et c'est celui qui veut accomplir les conditions que le Seigneur a données. Jésus va dire que pour le suivre, il faut se charger de sa croix, de notre croix. Alors bien sûr, il ne nous demande pas de prendre la sienne à lui, parce que ce que Jésus a fait sur la croix, sa croix, nous on ne peut pas le faire. Mais il nous demande de prendre notre croix. Il nous demande de faire comme lui. Et souvent on a du mal à comprendre ce que c'est que la croix. Et bien comme les disciples, on va regarder au maître. On va regarder pourquoi et on va essayer de comprendre l'état d'esprit, les sentiments, comme on a lu dans Philippiens, qui étaient en Jésus-Christ. Oui, on a notre croix à porter, mais pour bien comprendre ce que c'est que porter sa croix, on va regarder au maître. On va regarder à ce que Jésus a fait. Vous savez, il y a l'œuvre de la croix et il y a la pensée de la croix. Ce n'est pas la même chose. Jésus a fait une œuvre, cette œuvre de la croix, mais il était animé par une pensée. Il était animé par le Saint-Esprit, il était animé par la croix. Et dans Philippiens, il nous est dit, au verset, on l'a lu, au verset 5, Philippiens 2, 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et en fait, nous on a le mot « sentiment », mais Darby traduit ce verset de cette manière-là. « Qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » Et littéralement, c'est « Ayez en vous la manière de penser, la forme de penser qui était en Jésus-Christ. » Agir, penser, raisonner comme le Seigneur Jésus. Il y a la croix et il y a la pensée de la croix. Et l'œuvre de la croix en Golgotha, c'est Jésus qui l'a fait, et ça on ne peut pas le faire. Mais la pensée qui animait notre Seigneur, on peut l'imiter. La pensée de la croix, on peut l'avoir. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que pour imiter, il faut bien comprendre ce que c'est. On ne peut pas imiter quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Si à un moment je veux imiter un plat que fait ma femme, ben il faut que je vois la recette, il faut que je la vois faire. Puis ensuite je fais comme elle et puis j'arrive au même résultat. Vous voyez ? J'imite. Ouais, bon, je suis percé à jour. Bon, ouais, ça manquait de conviction. Il y a la pensée de la croix. Alors c'est quoi la croix ? Dans Philippiens, il nous est dit au verset 8, qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lorsque Jésus a porté la croix, avant de faire quelque chose pour les hommes, il nous est dit qu'il s'est rendu obéissant. Porter sa croix, c'est obéir au Père. Le service, avant d'être pour les hommes, il est pour Dieu. Il est pour Dieu. Porter sa croix, c'est un commandement du Seigneur. Et lorsque Jésus a pris sa croix, avant tout, il obéissait au Père. L'œuvre de la croix, prendre sa croix, c'est choisir d'obéir à Dieu, quoi qu'il m'en coûte. Jésus dira, au moment où c'était difficile, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Ce qui animait le Seigneur Jésus lorsqu'il a pris la croix, c'était d'obéir à Dieu. Le disciple, c'est celui qui choisit de renoncer à sa volonté et de choisir la volonté de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a pris la croix, il a choisi d'obéir. Il a agi par obéissance pour le Père. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je peux faire une religion, je peux prier, je peux chanter, je peux faire toutes sortes de choses, même pour Dieu, sans obéir. Mais la croix, c'est l'obéissance. La pensée qui animait Jésus-Christ, c'était d'obéir au Seigneur. D'ailleurs, Jésus dira à un moment, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?» Vous savez, on peut appeler quelqu'un Seigneur, on peut dire qu'on lui obéit sans lui obéir. Vous savez, on est un peu biscornu. Hein. Les pharisiens disaient aimer Dieu, mais ils ne l'aimaient pas. Pourtant, ils connaissaient toute la Bible. Mais ils n'avaient pas choisi de conformer leur volonté à Dieu. Et vous savez, il y a une forme de pensée où on aimerait que Dieu soit notre serviteur. Vous savez, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait un Dieu à leur image. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme image? Un bœuf. Le bœuf, c'est l'image du serviteur. Et c'est vrai que nous, des fois, on aimerait bien avoir un Dieu qui nous sert. Mais être chrétien, ce n'est pas avoir un Dieu qui nous sert. Être chrétien, c'est choisir de servir Dieu. Et choisir de lui obéir. À un moment, l'apôtre Paul, il va dire, au verset, toujours dans le chapitre 2, au verset 21, ils disent « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Les intérêts de Dieu. Obéir, choisir, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. C'est ça la croix. Prendre sa croix, c'est choisir de renoncer à moi, à ma volonté, pour adhérer, pour saisir la volonté de Dieu. Et dans la Bible, on voit qu'il y a la pensée de la croix, et il y a toujours une pensée qui lui est opposée. Vous savez, il y a un combat spirituel. Hein. Il y a Dieu et il y a Satan. Et en fait, on voit, quand on observe le comportement de Dieu et celui de Satan, qui s'oppose tout le temps à Dieu, qu'il y a vraiment, même dans la pensée, la façon de raisonner, une opposition à cette pensée-là. Il y a une pensée de l'anticroix, si vous voulez. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il en parle au chapitre 3. Il dit, quand il dit « Soyez mes imitateurs », il dit, donc chapitre 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » Et pourtant, il parle à ceux qui sont dans l'Église. Étonnant. Donc, on peut venir à l'Église et être opposé à cette pensée de la croix, du sacrifice. Donc, il dit, « Il y en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Je vous en ai souvent parlé, et je vous en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Regardez, ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, ils ne pensent pas aux choses d'en haut, ils ne pensent pas à Dieu. Leur Dieu, c'est eux, c'est leur volonté, c'est leur ventre. Ben ça, ce n'est pas la croix. Si c'est moi qui gouverne ma vie, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un disciple. Le disciple, c'est celui qui fait le choix que Dieu gouverne sa vie, que Dieu soit son Seigneur. Ça va? C'est ça la croix. Prendre sa croix, c'est renoncer. Et on voit d'ailleurs l'apôtre Paul, Jésus dit qu'il est le Christ. Donc en gros, Pierre a compris qu'il est le roi des rois, le Seigneur, qui va régner. Et Jésus commence à leur dire, maintenant il faut que j'aille à Jérusalem et que je meure. Jésus est en train de leur dire, oui, il est le roi, mais le roi qu'il est, le Dieu Tout-Puissant, choisit la croix. Et que va lui dire Pierre ? À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Que va dire Jésus ? Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez, cette pensée opposée. Régner sans la croix. Ce n'est pas biblique. Le disciple, c'est celui qui choisit de prendre sa croix, c'est-à-dire de faire non pas ce que lui, il veut, mais de faire ce que Dieu veut. La pensée de la croix. Et tout comme Jésus a obéi coûte que coûte, quel que soit le prix que ça allait lui coûter, le disciple, c'est celui qui choisit d'obéir en maître, même quand ça coûte. Parce que obéir quand ça ne coûte pas, ce n'est pas obéir. Obéir, c'est choisir de se conformer à la volonté de Dieu, même quand ça peut me coûter cher, et même quand ça peut coûter ma vie. Alors, dans nos pays, on n'est pas trop habitués à ça. Mais vous savez que certains frères et sœurs, à cause de leur foi, payent le prix de leur vie, quoi. La croix, donc, c'est choisir de prendre sa croix, c'est choisir, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, c'est obéir quoi qu'il en coûte. Mais la croix, c'est autre chose. Vous savez, l'œuvre de la croix, c'est comme un diamant. Il y a plein de facettes. Il suffit qu'on se tourne un peu et puis on peut voir encore quelque chose de merveilleux. Donc, la croix, c'est l'obéissance au Seigneur. Mais la croix, c'est aussi une œuvre d'amour pour les autres. C'est de l'amour vis-à-vis de Dieu. On lui obéit par amour. Mais c'est aussi de l'amour par rapport aux autres. Toujours dans ce texte de Philippiens, au chapitre 2, au verset 4, Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Lorsque Jésus a pris sa croix, lorsque Jésus a pris la croix, avec des majuscules, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour Dieu, mais il l'a fait aussi pour les hommes. Il nous est dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé à lui, il n'a pas regardé à sa position, il n'a pas regardé au fait qu'il était au-dessus de tous, que les anges le louaient, l'adoraient. C'est écrit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout a été créé pour Jésus-Christ. Et pourtant, Dieu n'a pas regardé à lui. Il n'a pas regardé à son intérêt. Il a regardé à notre intérêt. Et l'œuvre de la croix, c'est une œuvre d'amour pour son prochain. Prendre la croix, c'est accepter de arrêter de regarder à moi, 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 mais c'est de se tourner vers mon prochain. Jésus-Christ, il a souffert, mais il n'a pas souffert parce que ça allait lui apporter quelque chose à lui. Jésus-Christ, il a souffert parce que ça allait nous apporter quelque chose à nous. Jésus n'avait aucun besoin de prendre une victoire sur le péché. Cette victoire qu'il a prise en tant qu'homme, c'était pour nous la donner. Jésus-Christ n'avait aucun problème avec Satan, il était au-dessus de lui. Hein. Mais pourtant, il l'a vaincu en tant qu'homme, pour que nous aussi, on puisse avoir cette victoire. Et tout ce que Jésus a fait, même lorsqu'il était encore sur la croix, il ne pensait pas à lui, il pensait à ceux qui étaient autour de lui. Il pensait aux brigands, il pensait à Jean et Marie qui étaient devant lui. Il pensait à ceux qui étaient en train de l'offenser, à leur demander pardon. La croix, ce n'est pas, c'est tout le contraire de l'égoïsme en fait. La croix, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi ? Ça consiste à se donner. L'apôtre Paul, il dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » C'est ça la croix. C'est Jésus qui se dépouille, qui ne regarde pas à lui pour nous enrichir. C'est vrai, même jusqu'à sa tunique on a pris. Et pourtant, à la croix, il était en train de nous vêtir de fin lin, d'enlever nos habits sales et de nous donner une espérance et un avenir, oui, fait d'espérance. Et la croix, c'est cette pensée. Il s'est dépouillé lui-même. Il a choisi de prendre sa richesse, de s'en dépouiller pour nous la donner. C'est ça la croix. C'est renoncer à soi pour bénir l'autre. Oui, c'est obéir au Seigneur, mais c'est aussi mettre l'autre, l'intérêt de l'autre, avant mon intérêt. C'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas pensé à lui-même, Dieu il a pensé à nous. Et c'est merveilleux de réaliser que, oui, notre âme, elle était chère. Le prix de notre âme, il était cher. Et pourtant, il a choisi de payer le prix. Pour nous. C'était dans notre intérêt. Et tout à l'heure, on a vu, pareil, les ennemis de la croix, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est eux. C'est-à-dire que pour eux, la pensée qui est opposée à la croix, la pensée de la croix, c'est l'égoïsme. Prendre sa croix, c'est choisir de donner sa vie pour les autres, comme le maître. Et le disciple, c'est celui qui est comme son maître. Et nous, souvent, on a tendance naturellement à faire des choix pour nous. On va prendre tout ce qu'il y a de plus naturel, un enfant. Un enfant, il a tendance à penser à lui. C'est l'adulte qui pense à l'autre, vous voyez ? C'est l'adulte qui a tendance à se sacrifier. Eh bien, c'est pareil. La maturité, le disciple accompli, c'est celui qui détourne ses regards de lui et qui choisit de se tourner vers l'autre. C'est l'altruisme, c'est l'amour, c'est ça la croix. Donc c'est le choix d'obéir au Seigneur, c'est le choix de regarder à l'intérêt de l'autre plutôt que mon intérêt, et ça, ça coûte. Hein. Parce que des fois, quand on a des choix, mon intérêt, son intérêt, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, la croix, c'est choisir l'intérêt de l'autre plutôt que le mien. Un autre aspect de la croix, au verset 8, il nous est dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et au verset 3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » La croix, c'est choisir l'humilité. Lorsque Jésus a pris la croix, il s'est humilié lui-même. Et vous savez, la pensée qui a amené Jésus, la manière de penser qui a amené Jésus à prendre sa croix, c'était l'humilité. Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis doux et humble de cœur. » Jésus était humble. Est-ce qu'il l'a poussé à prendre la croix ? L'état d'esprit qui était derrière le fait de prendre la croix, c'était l'humilité. L'humilité. Dieu, Jésus, a choisi non pas de s'élever, mais de s'humilier. Et le disciple, c'est celui qui choisit non pas de s'élever, mais c'est celui qui choisit de s'humilier. L'humilité, c'est quoi ? Littéralement, c'est être proche du sol. Le contraire de l'humilité, c'est quoi ? C'est être orgueilleux. Orgueilleux, c'est quoi ? C'est s'élever. Vous savez, quand la Bible nous parle que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Vous savez, quand on s'enfle, c'est si ma main, elle enfle, elle est plus grosse que la normale. Elle gonfle, vous savez ? Comme un ballon, ça gonfle, c'est plus gros. Et à un moment, c'est ça. L'orgueil, c'est monter. L'humilité, c'est descendre. Et c'est descendre, non pas se dévaloriser soi-même, mais c'est descendre pour placer l'autre au-dessus. Vous savez, Jésus, à un moment, quand il a lavé les pieds de ses disciples, il faut réaliser ce qui se passait à ce moment-là. Quand il nous dit justement que je vous ai donné un exemple, c'est dans Jean 13. Alors, on ne va pas le lire pour ne pas être trop long, mais on voit que Jésus, c'est, à ce moment-là, c'est vraiment l'image de ce que Jésus a fait. Il s'est dépouillé de ses vêtements, il a pris le linge du serviteur, il s'est abaissé et il a lavé les pieds de ses disciples. Mais est-ce que vous réalisez le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, de qui tout vient ? C'est pour lui que sont toutes choses, qui est au-dessus de tout, il n'y a pas plus haut. Il a choisi de se faire homme, et quand il est homme, il choisit de laver les pieds de ses disciples. La pensée de la croix. Et il a lavé les pieds de ses disciples, et il est même allé mourir pour eux. C'est écrit qu'à ce moment-là, il a mis le comble à son amour. Ça, c'est la pensée de la croix. Il a choisi de s'humilier lui-même, c'est-à-dire qu'il a choisi de descendre pour servir les hommes. C'est ça la croix. Et prendre sa croix, c'est descendre. C'est descendre de son piédestal. C'est descendre de sa position de seigneur, de roi. Et c'est choisir de prendre le service. C'est choisir d'honorer les autres, de considérer les autres, de regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Et d'un autre côté, on voit pareil une pensée qui est complètement opposée à cela. Vous savez, quand on regarde Satan, alors on ne va pas le lire, mais si vous prenez des notes, vous lirez dans Ézéchiel chapitre 28. Il nous est parlé de Satan. Bon, quoi qu'il y en ait, on va le lire, parce que c'est intéressant. Ézéchiel chapitre 28. Après Jérémie. On va voir vraiment une catastrophe. On voit en fait dans ce texte que Ézéchiel il prophétise sur le prince de Tyr. Puis à un moment, au verset 11, il va commencer à parler au roi de Tyr. Et quand il parle de ce roi, on voit très bien qu'il ne parle pas d'un homme. Parce qu'il va dire, tu mets au verset 12, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc il énumère les pierres précieuses. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez, on voit vraiment un chérubin protecteur, un ange élevé, qui avait été élevé sur la montagne de Dieu. Il y a même un texte qui dit qu'il mettait le sceau à la perfection dans Ésaïe. C'était un ange que Dieu avait élevé. Il était haut, haut placé. Et voilà ce qui est écrit au verset 15. « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Et regardez ce qui s'est passé. Ton cœur, c'est verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous voyez ? Un ange qui a été élevé, mais il a regardé à lui. Il a regardé à ce qu'il avait, à ce que Dieu lui avait donné, parce que c'était Dieu qui l'avait placé à cet endroit-là. Et lorsqu'il a regardé à lui, son cœur s'est élevé. C'est tout le contraire de Jésus. Jésus, il n'a pas regardé à lui, il a regardé à nous et il s'est humilié. Satan, qui lui n'était pas tout en haut, mais qui avait quand même été élevé, il a regardé à lui-même et son cœur s'est enflé. Vous voyez l'orgueil. Et regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Il ne fait que s'opposer à Dieu sans cesse. Et la croix, c'est choisir non pas de regarder à moi et de m'élever, la croix, c'est regarder à l'autre et m'abaisser pour le servir. Et le disciple, c'est celui qui fait ça. C'est celui qui choisit de descendre comme Jésus l'a fait. C'est ça la croix, prendre sa croix. Et on pourrait parler de toutes sortes d'aspects de la croix. La croix, c'est pardonner. Jésus a choisi de pardonner lorsqu'il a pris la croix. C'était pour notre pardon. Le disciple, c'est celui qui pardonne. La croix, c'est faire grâce. Quand il a dit au brigand « Tu seras avec moi dans le paradis », il lui a donné ce que le brigand ne méritait pas. Prendre sa croix, c'est donner à l'autre ce qu'il ne mérite pas que je lui donne. La croix, c'est, on pourrait parler de la foi. Lorsque Jésus a pris la croix, c'était par la foi. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 12. La croix, c'est la souffrance. On pourrait parler de la souffrance. Quand c'est écrit que lorsque Jésus a souffert, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. On pourrait parler de toutes sortes d'aspects de la croix. Et là où je veux en venir, c'est que cette pensée-là, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et si on est honnête, ce n'est pas facile. Est-ce que c'est facile de s'abaisser ? Est-ce que c'est facile de se dépouiller ? Est-ce que c'est facile d'endurer la souffrance ? Non, ce n'est pas facile. Et souvent, vous savez, il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Le vieil homme, naturellement, vous savez, on a tendance à s'élever. Naturellement, on a tendance à regarder à soi. Et naturellement, on a tendance à ne pas avoir cette pensée de la croix. La pensée de la croix, ça se reçoit. Et en fait, plus qu'une pensée, plus qu'un état d'esprit, Ce qu'il nous faut, c'est le même esprit qui était en Jésus-Christ, la vie de l'esprit. Parce que c'est une chose de le vouloir, et j'espère vraiment que vous choisirez de prendre votre croix, mais pour y arriver, on a besoin de la vie de l'esprit. Et vous savez, il faut se poser cette question aussi. Pourquoi est-ce que je veux être rempli de l'esprit ? Parce qu'aujourd'hui, pour certains, être rempli de l'esprit, c'est être au-dessus des autres. Mais non. Si on est rempli du même esprit de Christ, alors on va s'abaisser. Et si j'ai besoin du Saint-Esprit, ce n'est pas pour m'élever. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'humilier. Parce que naturellement, ce n'est pas dans ma nature à moi. Ça se reçoit du ciel. Naturellement, je vais regarder à moi-même. Mais si je veux regarder à l'autre comme le Seigneur a regardé à l'autre, alors j'ai besoin de son esprit. Vous comprenez ? Et souvent, nous, on cherche le Saint-Esprit comme une sorte de promotion pour nous élever, alors qu'en réalité, l'Esprit nous a été donné, la puissance nous a été donnée, non pas pour qu'on fasse tout l'opposé du Maître, mais la puissance du Saint-Esprit nous a été donnée pour qu'on puisse faire comme le Maître et que l'on puisse porter notre croix jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Combien on a besoin aussi de réapprendre des choses par rapport à la vie de l'esprit. Nous, des fois, on veut être au-dessus, vous savez, surfer sur les difficultés, être dans la plénitude. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie, de paix, d'allégresse quand on est rempli de l'esprit. Mais ça nous a été donné pour être des disciples. Ça ne nous a pas été donné pour autre chose. Et j'aimerais conclure avec ça. Donc on retourne dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Oui, Jésus a pris la croix. Mais après la croix, il y a la gloire. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est humilié, il a pris la croix, mais il a été élevé par le Père. Et de la même manière, tous ses disciples qui prendront la croix et qui choisiront de descendre, qui choisiront l'humilité, qui choisiront l'obéissance, un jour seront élevés. Il a dit à ses disciples. Les disciples diront : Seigneur, pour nous, on a tout abandonné pour toi. Et Jésus leur dira : mais un jour vous régnerez. Il y aura 12 trônes en Israël. Et vous jugerez. Ils seront glorifiés. Et vous savez, oui, prendre sa croix pour le monde, c'est une perte. Là, tout ce que je vous ai dit, certains nous diront qu'on est fou. Mais vous savez, notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Elle est après. Et si je choisis de prendre ma croix aujourd'hui, demain, je régnerai. Et de la même manière que le Seigneur s'est abaissé et qu'il a été élevé au plus haut, de la même manière, si un jour, si je m'abaisse maintenant, demain, le Seigneur m'élèvera. Car Dieu n'est pas injuste. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à régner, comme certains le disent, dans le monde. On est appelés à s'humilier. Et un jour, au temps marqué par le Père, lui, il nous élèvera à la place qui nous convient, parce qu'on aura choisi avant la croix. Et vraiment, je vous invite, c'était cette pensée-là. Le disciple, c'est celui qui choisit de prendre sa croix. On peut finir en relisant ce texte d'introduction dans Matthieu 16. Verset 24. Matthieu 16, 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur parce que tu n'as pas regardé à toi-même, mais tu as choisi Seigneur de regarder à notre misère. Et Seigneur, lorsque tu as regardé à nous, Seigneur, tu n'as pas agi dans ton intérêt à toi, mais tu as agi dans notre intérêt. Tu as choisi, Seigneur, de t'humilier, de te rendre obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Et combien, Seigneur, nous sommes heureux de ce qu'aujourd'hui tu as été élevé et que ton nom est au-dessus de tout nom. Et comme nous sommes heureux, Seigneur, qu'un jour tout genou fléchisse devant toi. Et déjà, dès à présent, Seigneur, nous choisissons de fléchir le genou devant toi, Seigneur, car toi seul es digne. C'est vrai, comme on l'a chanté, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est non pas faire comme le monde, ce n'est pas avoir la pensée du monde, mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est avoir cette pensée, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Combien, Seigneur, nous avons besoin de l'action de ton esprit pour vivre ces choses-là, Seigneur. Combien, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit afin non pas de vivre selon la chair, mais de vivre une vie qui t'honore, Seigneur, une vie qui porte du fruit à la gloire de ton nom. Tu vois, Seigneur, tous les bien-aimés qui ont choisi ce chemin, tous les bien-aimés qui chaque jour se chargent de leur croix, tous ceux, Seigneur, qui te suivent, merci, Seigneur, pour l'espérance qu'un jour il y aura le règne. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.